Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Orayot, page 11, Daf Yud Alef. Bonne écoute et bon limoud.
Et nous apprenons de la Milchama ou de l'eau. C'est la guerre qui est interdite de faire. Atsiore et Tsarinu. Mais de les tourmenter, cela est permis. Velut Seira, et par contre, les enfants de la jeune, c'est-à-dire la deuxième fille de Lot, qui elle aussi a eu des relations avec son père, des carrières ben amis, elle a dit le fils de mon peuple. C'est-à-dire, elle n'a pas dit explicitement que ça venait de son père, donc c'est une belle façon de parler. Azamala, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Al Tetzoram va Al Tetgorbam. Ni ne les attaque, ni ne les provoque, klal du tout. Afilut Seorelo. De là, nous apprenons que même les tourmentés, ils n'avaient pas le droit. Donc nous voyons d'ici que ça, c'est le salaire de la seconde fille de Lot, car elle a parlé d'une belle façon, alors grâce à cela, elle a reçu ce salaire pour ses enfants, c'est-à-dire les enfants qui sont sortis d'elle, le peuple qui est sorti d'elle. Amar Priya Baravin, Amar Rabbi Yosha Ben Kocha. Priya Baravin a dit au nom de Rabbi Yosha Ben Kocha, « L'Olam Yagdim Adam Lidvar Mitzvah. » À tout jamais, une personne doit devancer, c'est-à-dire doit se dépêcher et être la première à faire une mitzvah. Car pour le salaire que l'aîné a devancé sa petite sœur, et nous parlons toujours des deux filles de Lot, d'avoir des relations avec son père pour pouvoir repeupler la terre comme ce qu'elle pensait. Alors, grâce à cela qu'elle a devancé sa sœur, grâce à ce mérite-là, Zarta vekadamta arba dorot le malchut. Alors, grâce à cela, elle a eu quatre générations avant sa sœur. Des enfants qui étaient déjà rois. C'est-à-dire que des enfants de Hamon et des enfants de Moab, il y a eu qui ont été rois chez les Béné Israël. Et il faut expliquer que ce que nous avons cité plus haut, qu'il est interdit de recevoir des convertis du peuple de Hamon et Moab, ce sont seulement des hommes. Mais des femmes, Chachamim nous ont appris qu'il était permis de recevoir des femmes qui se convertissent au Béné Israël. Et il y a eu des femmes de Hamon et de Moab qui se sont converties, ces femmes sont sorties des rois. Alors nous disons que de la femme de qui est venue et qui s'est convertie de Moab, elle a eu des rois quatre générations avant la femme qui s'est convertie de Hamon et qui elle aussi a eu des rois. Et il faut savoir que la femme qui a eu des rois qui vient de Moab, c'est David Ameler, car Ruth venait de Moab, et elle-même a engendré David Ameler. C'était un de ses générations. Tano Rabbana, nous avons appris. Mais Am Aaret, il est dit à propos de quelqu'un de particulier, s'il a fauté lorsqu'il amènera et qu'il devra amener un sacrifice expiatoire, alors il est dit, si un du peuple de la terre, c'est-à-dire un simple particulier, et la Gemara nous dit, prêtre les Mashiach, ça vient nous exclure le cas d'un grand prêtre qui lui n'amènera pas un expiatoire normal. Mais un du peuple de la terre, prêtre les Nassis, ça vient nous exclure le cas du roi qui aurait fauté, qui lui aussi n'amènera pas un expiatoire normal. Alors, Agma demande, Valok Variatso Mashiach Lidon Bepar, Nassi Lidon Besair, le Mashiach, le grand prêtre, lui, a déjà été exclu qu'il devra amener un bouc, et le roi, un taureau, et le roi a déjà été exclu qu'il devra amener un bouc. Alors, pourquoi avons-nous besoin à nouveau de l'exclure? C'est-à-dire que nous avons déjà appris qu'ils avaient des lois différentes. Alors, pourquoi avons-nous besoin à nouveau de l'exclure? Agma répond, non. Sheachol Mashiach Ralel Mdavarishgat Maseh Mevipar, j'aurais pu penser que le grand prêtre, lorsque quelque chose lui a échappé, qu'il a rendu une décision et qu'il a fauté en se reposant sur cette décision, il devra amener un taureau. Al-Jigat Masé, mais il a fauté sans faire exprès, tout simplement, sans avoir rendu une décision. Alors, les Choudes, si il a fauté seulement sans faire exprès, mais Vikisba Oseira, il amènera une beubrie ou une chèvre comme un simple particulier. Talmud Lamar, le verset nous dit, mais Amarès du peuple de la terre, prête les Mashiach, ça va nous exclure le grand prêtre, que c'est seulement. C'est un des simples particuliers qui pourra amener une brebis ou une chèvre, mais pas le grand prêtre. Mais à Maharet et du peuple de la terre, prêtre, les nazis, ça va nous exclure le roi. Alors, comment nous dit Tinach, Mashiach, je peux comprendre le cas du grand prêtre comme nous venons de l'expliquer. Et la Nas, mais le roi, Bizuad Mazéo de Maïté, lui, le bouc qu'il amène, c'est quand il a fauté sans faire exprès. Donc, je n'aurais pas pu penser que s'il a fauté sans faire exprès, il amènerait une brebis ou une chèvre. Alors, pourquoi avons-nous besoin de l'exclure? Amar Ravzid Mishved Rav, alors Ravzid a dit au nom de Rav, Achabema Askinan, ici de quel cas nous parlons, Kigon Shacha Kazaït Chelev Keshuediot, dans un cas où il a mangé un Kazaït de graisse interdite, lorsqu'il était un simple particulier. Venitmana, puis après il a été nommé. vers Karno Dalo, et après il a su qu'il a fauté. Alors, j'aurais pu penser que dans un cas pareil, il amènerait une brebis ou une chèvre, puisque lorsqu'il a fauté, c'est un cas simple particulier, car Machmalin, ça vient nous apprendre que non, et qu'il sera exemple. Alors, Agman nous dit, Hanichale Rabbi Shimon, je peux comprendre cela d'après Rabbi Shimon, d'Azal Batariedia, qui a lui a dit que nous allons aussi d'après le moment où il a su avoir fauté. C'est-à-dire que l'obligation d'amener un sacrifice ne sera pas seulement sur le moment où il a fauté, mais aussi par rapport au, le sacrifice est fixé par rapport au moment où il a su où il a fauté. Et donc, puisqu'au moment où il a su, il a fauté, il était roi. Et au moment où il a fauté, il n'était qu'un saint particulier, comme nous avons expliqué déjà plus haut dans la Mishnah, ce sont deux demi-obligations qui ne pourront pas s'associer l'une à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il est exempt. Et là, les Rabbanan, mais d'après Rabbanan, d'Azlou Batachata, qui eux disent que l'obligation d'amener un sacrifice est fixée par rapport au moment où il a fauté. Et puisqu'au moment où il a fauté, il était qu'un saint particulier, alors il devrait amener une chèvre ou une brebis. Maïk Alemar, qu'avons-nous à dire? Pourquoi sera-t-il exempt? Et pourquoi de ce verset nous l'avons exempté? Et là, ma Rav Zid Mishmi de Rava, le Rav Zid a dit en haut de Rava, Acha Bema Eskinan, ici de quelqu'un nous parlons, Kegon Shachal Chatzi Kazaït Chelev Keshu Idiot. D'un cas où il a mangé un demi-kazaït de Chelev de graisse interdite lorsqu'il était idiot. Venit Mana, puis après il a été nommé, Veishimo, et après il a fini ce deuxième demi-kazaït, et donc maintenant il a mangé un kazaït entier de Chelev. Maintenant il faut savoir que sur un demi-kazaït, on n'est pas passible de sacrifice expiatoire. On n'est passible de sacrifice expiatoire que lorsqu'on a mangé une quantité d'un kazaït entier. Et donc en fait maintenant il a mangé un demi lorsqu'il était un simple particulier, et un demi-kazaït lorsqu'il a été nommé. Puis après, ça lui a été su qu'il a fauté et qu'il a mangé des graisses interdites. Alors ça, kada tachamina nitsaref, j'aurais pu penser que ces deux moitiés de kazaït peuvent s'associer l'une à l'autre, venaite kizbaseira, et donc il amènerait une brebis ou une chèvre. Kashmashwanan, c'est là que ça vient nous apprendre que ces deux demi ne s'associent pas, puisque ce sont deux demi qui, chaque demi est passible d'un sacrifice différent. La première demi est passible d'une brebis ou d'une chèvre, et la seconde brebis qui, après qu'elle a été nommée, est passible d'un bouc. Et donc, puisque ils sont passibles de deux sacrifices différents, alors, il sera exemple. Rav demande, Baimine Rava me Rav Nachman. Rava a demandé à Rav Nachman, Nesiut maushet afsik. Est-ce que la Nesiut, la royauté, peut-elle interrompre? C'est-à-dire, la Gemara explique, Echidame, dans quel cas nous parlons? Kegon shachal chatzi kazaït chelev keshu idiot. Dans un cas où il a mangé un demi kazaït de chelev lorsqu'il est un simple particulier. Venitmane, puis après il a été nommé roi. Veava, et après il a perdu ses fonctions, il a perdu son statut de roi. Veishlimo, et à ce moment-là, il a mangé un deuxième demi kazaït de chelev, et donc maintenant ça fait qu'en tout il a mangé un kazaït entier de chelev. Alors est-ce que nous allons dire que dans un cas pareil, est-il passible de sacrifice ou pas? C'est-à-dire que, étant donné qu'au milieu, il y avait ce moment où il était roi, et que s'il avait mangé un kazaït de chelev, il aurait été de graisse interdite, il aurait été passible d'un autre sacrifice, alors après, s'il a refauté, la seconde demi-kazaït qu'il mange après avoir été roi ne peut pas s'associer avec le premier demi-kazaït. Alors la Gemara demande, Atamudelo mitzaref, c'est seulement dans le cas que nous avons cité plus haut, que où il a mangé un demi-kazaït en tant qu'un simple particulier et un demi-kazaït en tant que roi. Alors peut-être que nous allons dire que c'est seulement dans ce cas-là que ça ne peut pas s'associer. Deachle pagekshu idiot, dans un cas où il a mangé la moitié en tant que particulier au pagekshu nasi et l'autre moitié lorsqu'il était roi. Avalachame ici des idivedikshu idiot. Mais dans un cas pareil, comme nous venons d'apprendre, où les deux demi-kazaïdes qu'il a mangés, il les a mangés en tant que particulier, simplement entre les deux demi-kazaïdes, il a été nommé roi, et puis après il a perdu ses fonctions. Alors, Achila Mitzaref, alors à ce moment-là, ce qu'il a mangé, ça peut s'associer, il sera possible de sacrifice, Odilma, ou alors peut-être, Lochna, il n'y a pas de différence, étant donné qu'au milieu, il a été nommé roi, donc maintenant il est passible, il est considéré comme étant une personne qui est passible d'un autre sacrifice, et donc, il ne pourra pas, maintenant, lorsqu'il a après mangé à nouveau, en tant que particulier, un nouveau demi-kazaït, c'est autre chose complètement différent, et ces deux demi-kazaïtes ne pourront pas s'associer. Maï, quel est la loi dans un cas pareil? Alors, il dit, Tifshot, les Meade Amaroula Amarabi Hanan. Tu peux l'apprendre de ce qu'a dit Oula au nom de Rabbi Hanan. Achal Chelev, quelqu'un qui a mangé des graisses interdites. Vefrish Korban, et il a pris déjà son sacrifice pour l'amener au temple et pour se faire expier. Vemir, puis il est devenu un hérétique, Vechazarbo, et après il est revenu sur ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a regretté d'être devenu un hérétique, et il a fait Teshuva, il s'est repenti, et il est redevenu un bon juif. Alors l'Agma nous dit, Oil venitra, idache, puisqu'il a été repoussé, il sera repoussé. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui nous dit que quelqu'un qui est un renégat, un hérétique, n'a pas le droit d'amener de sacrifice. On n'accepte pas de lui un sacrifice s'il a fauté sans faire exprès. Donc maintenant, dans un cas pareil, il a mangé de la graisse sans faire exprès, donc il est passible de sacrifice. Puis après, il est devenu renégat. Donc s'il avait mangé de la graisse au moment où il était renégat, alors il n'aurait pas eu le droit d'amener un sacrifice. Alors Agmar nous dit, donc maintenant, puisque c'est ainsi, alors même quand il est renégat, on n'accepte pas de lui tous ses sacrifices. Puis après, il a fait teshuva, il s'est repenti, il est redevenu un bon juif. Alors j'aurais pu penser que dans un cas pareil, il pourrait amener un sacrifice sur la faute qu'il a fauté avant d'être un renégat. Alors l'Agma nous dit non, oïl venitra idaché, puisque il a été rejeté, et il ne peut pas amener de sacrifice. Alors maintenant, il ne peut plus du tout amener de sacrifice. Donc nous voyons à partir du moment où quelqu'un a été exempté, nous disons qu'il ne peut plus amener de sacrifice. Alors même si après il récupère son statut précédent, il ne pourra pas l'amener. De même, il en est avec le roi. C'est vrai qu'avant de manger, avant d'être nommé roi, il aurait pu amener un sacrifice. Mais puisque du moment où il a été nommé roi, il ne peut pas amener de sacrifice sur ce demi-kazaït et sur cette demi-kazaït de graisse interdite qu'il a mangé. Et donc, alors, puisque c'est ainsi, alors même si après il a perdu son statut de roi et il récupère son statut précédent, c'est-à-dire d'un simple particulier, malgré cela, il ne pourra pas amener de sacrifice sur la faute qu'il a fautée quand il était qu'un simple particulier. Or, l'Agmara demande, « Ahi Ashta, peut-on comparer ce cas-là et notre cas ?» Moumar, un renégat, lave barato et corbano. Lui, il ne peut pas amener de sacrifice du tout. Donc c'est pour ça que peut-être nous allons dire que puisqu'il n'a pas le droit d'amener de sacrifice du tout, alors même si après il s'est repenti, il n'aura pas le droit d'amener de sacrifice. Aval, haï, mais ce roi, barato et corbano. Lui, il peut oui amener un sacrifice. C'est-à-dire que lorsqu'il est roi, qu'il a fêté sans faire exprès, il peut oui amener un sacrifice. C'est vrai qu'il doit amener une autre catégorie de sacrifice. Il doit amener autre chose. Mais lui, il a quand même la possibilité d'amener un sacrifice. Alors puisqu'il a la possibilité d'amener un sacrifice, peut-être qu'après, lorsqu'il a perdu son statut de roi, elle qui récupère son statut d'un simple particulier, alors lorsqu'il a fauté et qu'il a mangé un demi-kazaït de chélève, de graisse interdite, cela pourra s'associer avec ce qu'il a mangé avant d'être nommé roi. Et donc nous restons dans le doute. Baïmine Rabbi Zira mais Rav Shechet. Rabbi Zira demande à Rav Shechet, Achal ça fait chélève keshu idiot. Il a mangé un morceau de graisse et c'était un doute, est-ce que c'était des graisses interdites ou des graisses permises lorsqu'il était un simple particulier. Et il y a une règle qui nous dit que dans un cas pareil, on doit amener un chantalouille, un sacrifice délictif que l'on amène en cas de doute. Mais ici, il s'est passé autre chose. Venit mana. Puis après, il a été nommé roi. Venoda lo al seko. Et seulement après qu'il a été nommé, il a su qu'il a mangé quelque chose qui était en doute. C'est-à-dire, est-ce que peut-être permis, peut-être interdit. Mao, quelle est la loi dans un cas pareil? Alors, Aliba de Rabanan, d'après Rabanan, de Batarat Chata, qui œuvront d'après le moment où il a fauté, l'autre, il n'y a pas de question à se poser, des Maïté à Chantalou, qui l'amènera un délictif en cas de doute, puisque étant donné qu'au moment où il a fauté, c'était qu'un simple particulier, alors c'est sûr que là, dans un cas pareil, il amènera un délictif en cas de doute. Et là, qui était Baéla, mais tout ce que nous posons comme question, Aliba de Rabbi Shimon, c'est d'après Rabbi Shimon, qui lui nous dit que l'obligation d'amener un sacrifice ne dépend pas seulement du moment où il a fauté, mais dépend aussi du moment où il a su qu'il a fauté. Alors, mi deshtan elevada, ishtan elesafek. Allons nous dire que puisqu'il a eu, il a changé de sort de sacrifice, étant donné qu'il a été nommé roi, si c'était sûr qu'il a fauté, alors maintenant, il amène une autre sorte de sacrifice. Au lieu d'amener une brebis ou une chèvre, il devra amener un bouc. Alors, étant donné qu'il a changé de sacrifice pour les cas où il a fauté, où c'est sûr qu'il a fauté, alors on dit aussi qu'il a changé de statut aussi par rapport aux fautes où il y a un doute, est-ce qu'il a fauté. Et donc, puisqu'il a changé de statut par rapport aux fautes où il y a ou sur le doute des fautes, alors il ne pourra pas amener de Hacham Talouï, de sacrifice délictif que l'on amène en cas de doute. Odilma, ou alors peut-être, qui ishtane levadai, ishtane korbanide. Tout ce que nous allons dire que son statut a changé dans un cas où il a fauté, et que c'est une faute, c'est sûr qu'il a fauté, ishtane korbanide, parce que son sacrifice a été changé. C'est-à-dire, à la place d'amener une brebis ou une chèvre, maintenant il doit amener une bouc. Avalacha, mais maintenant, dès lors ishtane korbanide, que dans un cas d'une faute où il y a un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas, là-dessus son sacrifice ne change pas. C'est-à-dire que qu'il soit particulier, qu'il ait fauté en tant que particulier, qu'il ait fauté encore en tant que roi. S'il y a un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas, il devra toujours amener un délictif que l'on amène en cas de doute. Donc maintenant, cette catégorie de sacrifice, pour elle ne change pas. Pour lui, elle ne change pas. C'est-à-dire, qu'il soit un simple particulier ou qu'il soit un roi, ça ne change pas. Alors, Imala était Hacham Talouï. Alors, j'aurais pu penser que, donc, sur ce qui est le doute, sur ce qui est le cas d'une doute, est-ce qu'il a fauté ou pas, alors, son statut n'a pas changé, donc il amènera un sacrifice délictif en cas de doute. Teko, alors, on nous dit, nous restons à sa fête, que nous ne savons pas. Dans nos rabbins, nous avons appris. Mais à Maharetz, si un parmi le peuple de un du peuple de la terre a fauté, prat les moments, ça vient nous exclure le renégat, que le renégat, s'il a fauté sans faire exprès, lui ne pourra pas amener de sacrifice. Rabbi Shimon bar Yossi Omer Mishum, Rabbi Shimon bar Yossi nous dit au nom de Rabbi Shimon, il est déjà dit Asher lo ti'asena bishgaga, une faute qu'on n'a pas le droit de faire, il a fauté sans faire exprès, vers Hachem, mais il a fauté. Et nous apprenons de là. Achav beyidiato mevikorban. Quelqu'un qui, lorsqu'il sait qu'il a fauté, se repent. Alors lui, il devra amener un sacrifice. Hachgigato, sur sa faute qu'il a fauté sans faire exprès. Locha beyidiato. Mais s'il ne se repent pas lorsqu'il a su qu'il a fauté, eno mevikorban. Lui, il n'amènera pas de sacrifice. Hachgigato, sur sa faute qu'il a fauté sans faire exprès. Et donc, un renégat, qui, lorsqu'il a fauté sans faire exprès, lorsqu'il sait qu'il a fauté, ne se rempart pas, il n'a pas besoin d'amener un sacrifice. Alors, on me demande, Maï Benayou, quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon? Tanakama qui l'apprend de Amaret, c'est Rabbi Shimon qui l'apprend du fait qu'il ne se rempart pas. Rabbi Hamnouna nous dit, Moumar l'Echol Khelev, un renégat qui est renégat que sur un point, c'est-à-dire, il y a une seule mitzvah qui n'observe pas, et c'est la mitzvah, par exemple, de manger des graisses interdites. Lui, il fait toute la Torah sauf manger des graisses interdites. Ou mevi korban adam, et il a mangé du sang sans faire exprès, et il veut amener un sacrifice pour se faire expier d'avoir mangé du sang sans faire exprès. Ça, c'est la différence entre ces deux. Mar, savar que vande moumar l'echol chelev, l'adam nami moumar abe. D'après Tanakama, étant donné qu'il est moumar, c'est-à-dire qu'il est renégat sur ce point-là, qu'il mange des graisses interdites, alors il s'est appelé un renégat, et donc même s'il a mangé du sang sans faire exprès, il est appelé renégat. Et puisqu'il est appelé renégat, alors il n'a pas le droit d'amener un sacrifice. Moumar savar, et d'après Rabbi Shimon, les dames yachav beidiatou. D'après Rabbi Shimon, lorsqu'il a mangé du sang et qu'il s'avère qu'il a mangé du sang et qu'il sait qu'il a mangé du sang, il se repent. Alors il s'appelle Shav Midato, qu'il se repent sur sa faute, et donc il peut, oui, amener un sacrifice. Ragma demande vers Rava, comment peux-tu me dire que c'est la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon? Vers Rava, Amar, Rava dit, Dekulama, d'après tout le monde, Moumar l'Echol Khelev, quelqu'un qui renégat sur juste un point de manger des graisses interdites, c'est-à-dire lui, il accomplit toute la Torah sauf qu'il mange des graisses interdites, l'Ave Moumar les dames, il n'est pas considéré comme étant un renégat sur le fait de manger du sang. Et donc, lui, lorsqu'il fait attention de ne pas manger du sang. Et puisqu'il fait attention de ne pas manger du sang, alors pourquoi lorsqu'il a mangé du sang, nous l'appelons un renégat? Parce que lorsqu'il a mangé du sang sans faire exprès, pourquoi nous l'appelons un renégat? Et pourquoi nous lui disons qu'il n'a pas le droit d'amener un sacrifice? Alors, on nous dit, Elaha. Et donc, d'après ce que nous venons de voir, il a oui le droit d'amener un sacrifice. Donc, s'il a oui le droit d'amener un sacrifice, il n'y a aucune différence entre Tanakama et Rabbi Shimon. On m'a répondu, Elaha. Alors ici, Beochel Nevela l'était avol. La différence entre Tanakama et Rabbi Shimon, c'est le cas d'une personne qui a l'habitude de manger des bêtes mortes, qui sont mortes sans l'abattage rituel, lorsqu'il a faim. C'est-à-dire que, lorsqu'il a faim, lui, il est d'accord de manger des bêtes cachères qui ont eu l'abattage rituel. Mais, s'il n'en trouve pas, alors il mangera une nevela, c'est-à-dire une bête qui n'a pas eu l'abattage rituel. Et maintenant, il avait devant lui un bout, il pensait que c'était des graisses permises. Et donc, il a eu un bout de graisse interdite. Il a mangé un bout de graisse interdite en pensant que c'était des graisses permises. Et il a mangé. Alors, camifléguer, ça, c'est leur discussion. D'après Tanakama, étant donné qu'une personne, pareil, lorsqu'elle a faim, elle mange exprès des bêtes qui n'ont pas eu l'abattage rituel, alors ça s'appelle un renégat, parce que c'est une chose interdite. Ou Mar Savar, et d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, puisque s'il avait trouvé une bête qui avait eu l'abattage rituel, c'est-à-dire qui était permise, alors il n'aurait pas mangé quelque chose d'interdite, lave mon marou, il n'est pas appelé un renégat. Et donc c'est pour ça qu'il pourra, oui, amener un sacrifice. Nous avons étudié, Achal Khelev, quelqu'un qui a mangé des graisses interdites, Zéoumar, c'est considéré comme étant un renégat. Vézéoumar, et quel est un renégat? Achal Evelot, quelqu'un qui a mangé des bêtes qui n'ont pas eu l'abattage rituel, Vétrefot, ou alors des bêtes qui ont, oui, l'abattage rituel, mais qui malgré cela n'ont pas les signes d'une bête cachère, Shkatsim Vermasim, des insectes ou des rampants, Véchatayaïn Neser, ou alors il a bu du vin qui a été utilisé pour de l'idolâtrie. Alors ça, c'est considéré comme étant un renégat. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous dit, Afalovesh Kilaim, même quelqu'un qui s'habille avec du Kilaim, c'est-à-dire, il y a une règle qui nous dit qu'il est interdit de porter du lin et de la laine, un habit qui est fait de lin et de laine, s'appelle du Sharatnez. Alors quelqu'un qui porte un habit pareil, il est considéré lui aussi comme étant un renégat. Alors Rabbi nous dit, Amar Mar, Mar nous a dit, Achal Khelev, s'il a mangé des graisses interdites, Zeumumar, C'est considéré comme étant un renégat. Vezeumar, et qui est un renégat? Ochel nevelot, quelqu'un qui mange des bêtes qui n'ont pas eu l'abattage de Dieu, etc. Alors, on demande, Maïkama, c'est quoi l'explication de cette phrase-là? Alors, c'est comme ça qu'il a dit. S'il a mangé des graisses interdites parce qu'il avait faim et qu'il n'a rien trouvé d'autre à manger, alors ça c'est considéré comme étant un renégat. L'achis, mais s'il a mangé, chas v'shalom énervé à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il avait la possibilité de manger des graisses permises. Et malgré cela, il a mangé des graisses interdites, arezé zdoki. Alors ça c'est considéré comme étant un zdoki. Veze ou meumar de bestam o zdoki. Et quel est le renégat que sûrement c'est un zdoki, c'est-à-dire c'est un tzedoki. C'est-à-dire, c'est un degré plus fort de renégat. Et Véomère, tu dois dire, Ochen Nevela Otrefa, quelqu'un qui mange des Nevela, des bêtes qui n'ont pas eu l'abattage rituel, et qu'elle est morte, par exemple, à cause d'une maladie. Et puisqu'il s'est ainsi, alors, c'est quelque chose de dégoûtant de manger une bête pareille, et malgré cela, il a mangé. Ou alors, Trefa, une bête qui a eu l'abattage rituel, mais qui n'a pas les signes d'une bête cachère. Nous expliquons que dans un cas où elle n'est pas apte à être mangée, malgré cela, il a mangé, c'est quelque chose de dégoûtant. Ou alors, shkatim ou ramassim, des rampeaux ou des insectes qui eux aussi sont des choses dégoûtantes. Veshata yaineser, ou alors s'il a mangé du vin, ou il a bu du vin qui a été utilisé pour un culte d'idolâtrie. Alors, dans un cas pareil, sûrement que c'est pas un simple renégat, mais c'est un tzedoki. Rabbi Yossi bar Yehuda nous dit, afalovesh kilaim, même quelqu'un qui s'habille avec des habits de lin et de laine en même temps. Alors, ma demande, Mai Benayou, quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi bar Yehuda? C'est-à-dire que, étant donné que c'est les deux Tanaïm que nous avons cités, les deux parlent s'il a transgressé un interdit qui est explicite dans la Torah. Alors, c'est sûr que s'il a transgressé un interdit qui est explicite dans la Torah, c'est considéré comme étant un renégat. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que venu nous rajouter Rabbi Yossi bar Yehuda? Alors, la Gemara nous répond, Ikabena, la différence entre Tanakam et Rabbi Yossi bar Yehuda, qu'il aime des Rabbanan. S'il s'est habillé et qu'il a utilisé un habit qui est interdit, en tant que lin et laine, mais seulement des rabbanan, pas de oraita. C'est-à-dire qu'il a été cousu d'une certaine façon, etc. Ou des oraita, cela est permis, mais des rabbanan, cela est interdit. Alors, mar, savar, mi d'oraita, ave moumar, des rabbanan, ave moumar. S'il a transgressé un interdit de la Torah, il est considéré comme étant un renégat. Mais s'il a transgressé un interdit qui est interdit seulement par les rabbanan, il n'est pas considéré comme étant un renégat. Ou mar, savar, et Rabbi Yossi bar Yehuda pense qu'il aime cet interdit de qu'il aime qui est van des mefarsim, il saurait, puisque la chose est connue et c'est reconnu de tout le monde qu'une chose pareille est interdite et tout le monde voit qu'il transgresse cet interdit. Afilu debera davana avemuna. Alors même s'il a transgressé cet interdit, il a transgressé qu'un interdit des rabbanan, il est considéré comme étant un renégat. Plige bar Ravacha et Ravina. Il y a une discussion là-dessus entre Ravacha et Ravina. Chad amar le teavon mumar le achiz doki. Il y en a un qui dit que s'il a mangé un interdit parce qu'il avait faim, alors il est considéré comme étant un renégat. Mais s'il a mangé chas v'shalom pour énerver à Kadosh Baruch Hu, alors là il est considéré comme étant zoki. Vechad amar, et là il lui dit, le'achis nami mumar. Même s'il a mangé pour énerver à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas considéré comme étant zoki, mais il est considéré comme étant un renégat. Et là il est zoki. Alors c'est quoi un tzedoki? Kol ha'oved avodat kochaviv. Chaque personne qui est idolâtre, c'est-à-dire qui transgresse l'interdit d'idolâtrie. La Gemara demande métive et la Gemara demande achal parou shechad ou itou shechad. Si il a mangé un moucheron ou un moustique, arezé moumar, ça c'est considéré comme étant un renégat. La Gemara demande veachad et laachis ou vekakar et moumar. Nous voyons que dans un cas pareil, c'est sûr que c'est fait pour énerver. Parce que un moucheron ou un moustique, c'est pas quelque chose de bon. Tu peux pas dire qu'il a mangé ça parce qu'il avait faim. Tu es obligé de dire que ce qu'il a mangé ça, c'est parce que c'est interdit et malgré cela, il a voulu transgresser l'interdit. Et nous voyons que nous l'appelons un renégat. Donc nous voyons que quelqu'un qui transgresse un interdit de la chis, pour énerver Kadosh Baruch Hu, il est appelé renégat et non pas zoki. Alors, ma réponse, non. Atam laba damar et tom tandi sura. Là-bas, il n'a pas fait ça pour énerver chas v'shalom Kadosh Baruch Hu, mais il a dit, je veux goûter le goût des choses interdites. La Gemara rapporte maintenant un extrait de la Mishnah. Vezeu nasi ze melech. Et qui est-ce qui est considéré comme étant un nasi? C'est le roi. Tanu Rabbanan, nous avons appris. Nasi, un prince. Traduction simultanée de Nassi, c'est un prince. Alors, Yachol, Nasi Shevet, qui est Nachshon Ben Aminadav. J'aurais pu penser que le prince d'une tribu comme Nachshon Ben Aminadav, lui aussi considéré comme étant un Nasi qui est passé d'un sacrifice spécial. Talmud Lomar, le verset nous dit, s'il a fait Mikol Mizot Hashem Elokav, une de toutes les Mizot, Hashem son Dieu. Oulala, non, mais plus loin, il est dit, Leman, Ilmad, Leira et Hashem Elokav, afin qu'il apprenne à craindre Hashem son Dieu.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
De même que plus loin, nous parlons qu'il y a au-dessus de lui seulement Hashem son Dieu. Afnasi, de même que nous avons parlé ici du Nasi, un prince, Shen al Gaba vel Hashem Elokav, seulement un prince qui a au-dessus de lui seulement Hashem son Dieu. Et c'est qui? C'est le roi, et non pas un prince normal. Rabbi a demandé à Rabbi Chia, Kegon ani maou, une personne comme moi, quelle est sa loi? Beseir, est-ce qu'il devra amener un bouc ou est-ce qu'il devra amener comme un particulier une brebis ou une chèvre? C'est-à-dire, Rabbi était le dirigeant des Juifs en Eretz Israël. Alors, il a demandé à Rabbi Chia, est-ce que moi qui suis le dirigeant des Juifs d'Eretz Israël, est-ce que je suis considéré comme étant un roi et j'amènerai un bouc ou pas, ou je suis considéré comme un simple particulier? Amarle, il lui a dit, arrête à rattraper Babel. Tu as ton rival en Babel, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est plus fort que toi en Babel, c'est-à-dire qu'il lui aussi est dirigeant de Babel, et lui aussi, il dirige pas seulement Babel en fait, mais il dirige aussi tous les Juifs, même ceux d'Eretz Israël. Et donc, tu as quelqu'un au-dessus de toi, et puisque tu as quelqu'un au-dessus de toi, alors tu n'es pas considéré comme étant un roi. Il t'y va, la Gemara demande, Malché Israël ou Malché Ben David, les rois des Béné Israël et les rois de la maison de David, c'est-à-dire que après l'époque de Shlomo HaMelech, régnait sur le peuple d'Israël deux rois à chaque fois. Un roi qui régnait sur 10 tribus, et eux ils étaient appelés Malché Israël, les rois du peuple d'Israël, et un roi qui régnait sur deux tribus, la tribu de Yehuda et Binyamin, et eux ils étaient appelés Malché Ben David, les rois de la maison de David, et parce qu'ils étaient les descendants de David HaMelech. Alors, ces deux rois-là, Elou Mevim Lazmam et Elou Mevim Lazmam, cela amène un sacrifice, un bouc de leur côté, et cela amène de leur côté. Donc, apparemment, de même que eux, chacun amenait de leur côté, alors de même, ici, dans notre cas à nous, Rabbi aurait dû amener de son côté, et le dirigeant des Juifs de Babel aurait amené de son côté. Adam Arley lui a dit, Atam, lo kaifa adade. Là-bas, ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Acha, aval ici, anan kaifinan leu. Ici, les Juifs d'Eretz Israël, ils sont dépendants des dirigeants des Juifs de Babel, les didou à eux-mêmes, c'est-à-dire aux dirigeants des Juifs de Babel. Et donc, Rabbi, il était dépendant, en fait, du dirigeant des Juifs de Babel. Rabsafa manachi. Rabsafa a étudié cela d'une autre façon, comme cela. Baimine Rabbi mi Rabbi Chia. Rabbi a demandé à Rabbi Chia. Kegon ani mahu besaye. Une personne comme moi, quelle est sa loi? Est-ce qu'il devrait amener un bouc? Amarle, il lui a dit, Atam Shevet, là-bas il écrit un bâton. Acha, et ici, Mechokek, il est dit quelqu'un qui fixe les lois. Vetanye, et il est dit, Lo Yasur Shevet Meyuda, le bâton ne se détournera pas des mains de Yehuda. Zerosh Golash Be Babel, c'est le dirigeant des Juifs de l'exil qui sont à Babel. Sherodet Israël Be Makel, qui lui, il domine et il assujettit les Bnei Israël avec un bâton, c'est-à-dire durement. Et la suite du verset où il est écrit, et le fixeur des lois ne bougera pas d'entre ses jambes. Elou bnei banav shel Hillel, ce sont les enfants et les petits-enfants de Hillel, shemeladim Torah l'Israël baramim, qui eux apprennent la Torah au bnei Israël en public. Et donc en fait, nous voyons ici les deux façons de voir, ceux qui dirigent durement avec le bâton et ceux qui apprennent la Torah. Et Rabbi faisait partie de la catégorie des gens qui apprennent la Torah, mais pas qui dirigent durement. Par contre, le directeur de la Gola, le directeur de le dirigeant de l'exil qui était à Babel, lui, il dirigeait les Béné Israël, c'est lui qui a sujeté les Béné Israël durement. Alors lui, puisqu'il avait la force d'assujettir les Béné Israël, alors il était plus fort que Rabbi. Donc maintenant, Rabbi n'est pas considéré comme étant le dirigeant suprême, et donc il n'amènera pas de sacrifice un bouc. Maintenant, il faut expliquer que toute cette question que Rabbi a demandé, c'est théorétique, c'est-à-dire que théorique, c'est-à-dire que Rabbi, lui, il n'y avait pas le Beth Amikdash, il n'y avait pas le temple en son temps, et donc ne pouvait pas amener de sacrifice un bouc. Mais théoriquement, Rabbi demande, si le temple avait été là, alors est-ce que j'aurais dû amener un sacrifice en tel ou pas? La Mishnah nous dit maintenant, Vezehu HaMashiach, Qui c'est le Kohen Mashiach, le grand prêtre dont nous avons parlé maintenant? Qui est-ce qui est considéré comme tel et qui sera passible de sacrifice, d'un sacrifice spécial d'amener un taureau lorsqu'il a fauté en se reposant sur une décision qu'il a rendue? Hamashuar Beshemen Amishra. C'est seulement le grand prêtre qui a été oint avec l'huile d'onction. Lo Amerubeb Gadim, et non pas le grand prêtre qui a rajouté des habits. Et ici, il faut expliquer qu'à l'époque du Second Temple, lorsque l'huile d'onction a été cachée, les grands prêtres n'ont pas été oints, mais tout simplement, la seule chose qui les différenciait des autres Kohanim d'un simple prêtre, c'est que lorsqu'ils faisaient le service, alors ils devaient s'habiller de 8 habits. Contrairement à un simple Kohen qui lui n'avait que 4 habits. Donc c'est pour ça que tous les grands prêtres de l'époque du Second Temple n'étaient pas appelés des grands prêtres qui étaient oints, mais tout simplement par ce définitif de Merubé Gadim, le grand prêtre, il était appelé un tel parce qu'il avait rajouté des habits, ce qui le différenciait du Kohen Edot, du simple Kohen. Alors la Mishnah nous dit, si un grand prêtre qui a rajouté des habits, c'est-à-dire un du Second Temple, a fauté, lui ne sera pas passible de sacrifice spécial du Kohen Machir du grand prêtre. Alors la Gemara nous dit, il n'y a pas de différence entre le grand prêtre qui a été oint avec l'huile d'onction et le grand prêtre qui a rajouté des habits et donc il n'a pas été oint. Et la part à Baal Kol HaMitzvah, seulement le taureau qui vient pour se faire expier s'il a transgressé une de toutes les mitzvot, ce que nous venons d'expliquer. Ven ben Kohen Meshamesh le Kohen Shava. Maintenant, il faut savoir qu'un grand prêtre, il peut se passer qu'il ait eu un défaut quelconque et donc qu'on ait dû le défaire de ses fonctions. Il lui dit, monsieur, vous attendez quelques temps, le temps que ce défaut se répare. Ça peut être n'importe quel défaut, par exemple, quelqu'un qui a été frappé de lèpre, un grand prêtre qui a été frappé de lèpre ou qui a été rendu impur, etc. Pour une raison, pour n'importe quelle raison, s'il est inapte à faire le service, alors il y a un second grand prêtre, on nomme un second grand prêtre pour le remplacer. Lorsque le premier grand prêtre peut récupérer ses fonctions, c'est-à-dire que le défaut qu'il a eu est passé, par exemple s'il était malade de lèpre, il a été guéri, ou alors si par exemple il s'était rendu impur, alors il est redevenu pur, etc. Alors, il récupère ses fonctions, et le second grand prêtre qui l'a remplacé s'appelle Kohen She'ava, un Kohen qui a remplacé, et donc maintenant, il a perdu ses fonctions de grand prêtre. Alors maintenant, la seule différence entre ce Kohen qui a perdu ses fonctions de grand prêtre, c'était qu'un simple remplaçant, et le vrai grand prêtre, alors la Gemara nous dit, Ven ben Kohen Meshamesh, le Kohen qui fait le service, c'est-à-dire qui est en fonction en ce moment, les Kohen Shavar et le Kohen qui a perdu qui a maintenant perdu ses fonctions, et la Parayam Kippourim va Sirit Haifa, seulement l'obligation d'amener un taureau spécial le jour de Kippour et l'obligation d'amener un Sirit de Haifa tous les jours, qui était l'offrande du grand prêtre. Alors ça, c'est le grand prêtre qui est en fonction qui doit les amener et pas le remplaçant ou quelqu'un d'autre. Et maintenant, la Gemara nous dit, par contre, Zeva Zeshavim, ces deux grands prêtres sont égaux sur les autres obligations, c'est-à-dire, Be'avodat Yom HaKippurim, faire le service le jour de Yom Kippur, les deux ont le droit de faire le service le jour de Yom Kippur, ou Metsuvim Ala Betula, ils sont ordonnés de se marier seulement avec une vierge, ils n'ont pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre, Ve'asurim Ala Almana, ils n'ont pas le droit de se marier avec une veuve, ni l'un ni l'autre, Ve'enam Metamim Bikovem, ils n'ont pas le droit de se rendre impurs lorsqu'un de leurs proches est décédé. Alors ils n'ont pas le droit de se rendre impur, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de s'occuper de l'enterrement, etc. De l'enterrer vraiment, c'est-à-dire de s'occuper d'organiser peut-être, mais de l'enterrer vraiment ou de toucher le mort, ils n'ont pas le droit de se rendre impur pour ce mort. Veloporim, ils n'ont pas le droit de se laisser pousser les cheveux, car il y a une règle qui nous dit que quelqu'un qui avèle, qui est en deuil sur un proche, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Les grands prêtres, lui, il a oui l'obligation de couper les cheveux. Il n'a pas le droit de se laisser pousser les cheveux. Veloporim, il ne fera pas la kriya, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en deuil sur un proche, il doit déchirer son habit. Alors le grand prêtre, lui, ne déchirera pas son habit. Ou marzirin et tarosser, et si l'un de ces deux grands prêtres est décédé, Alors, l'assassin qui est parti en exil, s'il a tué sans faire exprès, pourra revenir. Comme nous dit la règle, qu'un assassin qui est parti en exil sans faire exprès, lorsque le grand prêtre décède, s'il a tué sans faire exprès, lorsque le grand prêtre se décède et meurt, alors à ce moment-là, l'assassin pourra revenir à sa ville natale. Il en est de même ici. Et la Mishnah ici vient nous dire qu'il n'y a aucune différence que ce soit le grand prêtre qui est en fonction en ce moment ou le grand prêtre qui a remplacé le grand prêtre qui est en fonction en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, sur ces lois-là, il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Et même le grand prêtre qui était un remplaçant est encore considéré comme un grand prêtre. Agma nous dit, Tanou Rabbanan, nous avons étudié. Shemen Amishra, l'huile d'onction, Sharsa Moshe Ben Yudar, que Moshe a fait dans le désert, Ayushol Kimbo et Aikarim. On y faisait cuire les ingrédients, c'est-à-dire on mettait tous les ingrédients, toutes les épices, on les mettait dans l'huile et on faisait cuire l'huile. Divrei Rabbi, ce sont les paroles de Rabbi Yudar. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi nous dit, Ve'alo la sochet Aikarim et notre fake. Arrête, il n'y en a pas suffisamment pour juste enduire les ingrédients. Comment tu peux me dire qu'on mettait tous les ingrédients dans l'huile? Si on voulait juste enduire les ingrédients, il n'y avait pas suffisamment d'huile. Alors tu me dis qu'on mettait tous les ingrédients dans l'huile. Et là, alors qu'est-ce qu'on faisait? Shorim et Aikarim Bamaim. On laissait tremper les ingrédients et toutes les épices dans l'eau. Et donc, à ce moment-là, une fois que les ingrédients s'imprégnaient d'eau, alors après, ils ne pouvaient pas absorber encore de autre chose. Alors une fois, on mettait à la chemin. Alors à ce moment-là, on faisait couler sur ces ingrédients et sur ces épices-là de l'huile. Et donc, l'huile ne s'imprégnait pas dans les ingrédients puisque les ingrédients étaient déjà pleins d'eau. Vécolette est arrière. Et l'huile prenait l'odeur de ces ingrédients et de ces épices. Vécapro. Et après, tout de suite, on faisait sortir l'huile. Et donc, l'huile avait comme ça une bonne odeur. Alors, Rabbi Yehuda lui a répondu à Rabbi aussi. Vrines echad neesa beshemen amishra. Tu crois qu'il y avait seulement un seul miracle dans l'huile d'onction? Valot chelatosh neemasar lugim. Au début, cette huile d'onction, il n'y avait que 12 lugs. 12 lugs, c'était une mesure. Donc, il n'y en avait que 12 lugs. Umimenu. Et de cette mesure-là, ayanimshach mishkan vekelav. Le mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, a été oint. Et ainsi que tous les ustensiles du tabernacle. Aaron ou Banav, Aaron et ses enfants, Kol Shivat Yemei Amilim, tous les 7 jours de l'inauguration du tabernacle. Vekulo Kayam Latil Lavo. Et il est resté entièrement, c'est-à-dire les 12 loups entiers, bien que on a oint avec ça le tabernacle, etc., quand même il restait encore 12 loups entiers pour le futur lorsque le Messie viendra. Chez Nehemar, comme il est dit, Shemen Mishrat Kodesh Yezeli, les Dorotechem. Une huile d'onction sainte, elle sera pour moi, pour vos générations. Et de là, on apprend pour vos générations, mais vos générations futures. Alors, donc nous voyons ici explicitement qu'il y a eu un nes. Donc, puisqu'il y a eu un miracle, alors c'est pas seulement un miracle, il y a eu ce miracle, il y a eu d'autres miracles aussi. C'est-à-dire qu'on pouvait faire cuire toutes les épices et toutes les ingrédients dans l'huile, bien que apparemment c'est quelque chose de pas logique. Tanya Eda, nous avons appris ailleurs. Vaikar Moshe et Shemen Amishra. Moshe a pris l'huile d'onction, et il a oint le tabernacle, vet kol sherbo et tout ce qu'il contenait. Rabbi Yehuda nous dit, Shemen Amishra sha'asa Moshe bamidwar, l'huile d'onction que Moshe a fait dans le désert, kama nisim ne'asubo, il y a eu plusieurs miracles. Mitrila va'adasov, du début jusqu'à la fin. Trilato au début, lo yala shnem asar lugim, il n'y en avait que 12 lugs. 12 lugs, lugs c'est une mesure. Re kama yore bolat, regarde combien la casserole s'imprègne, c'est-à-dire que lorsqu'on met à cuire quelque chose dans une casserole, alors la casserole s'imprègne de la chose qui est cuite dedans, et donc automatiquement il n'y en a pas, il n'y a pas autant, il n'y a pas la même quantité au début de la cuisson et à la fin de la cuisson. Donc regarde combien la casserole s'imprègne, mais kamay karim bolim, et combien les ingrédients eux aussi s'imprègnent de cette huile, mais kama osoref, et combien le feu fait s'évaporer de cette huile. Ou bon, et malgré cela, avec cette huile, avec tout ce qu'elle est censée avoir perdu, a été oint, Nimshach a été oint, Mishkan, le tabernacle, Vekelav et tous ses ustensiles, Ve'aaron ou Banav, Kol Shivat Yemei Amilim. Et Aaron et ses enfants, tous les 7 jours de l'inauguration. Ou bon, Nimshachu, Kohanim, Gdolim ou Melachim. Et avec cette même huile ont été oint tous les grands prêtres et les rois. Ve'afilu Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, Taon Meshira. Et même un grand prêtre, fils de grand prêtre, a besoin d'être oint. Mais un roi, fils de roi, c'est-à-dire que si le fils du roi doit lui devenir roi maintenant à la place de son père, lui il n'a pas besoin d'être roi. Mais Thomas, mais n'aimant ma chouette Shlomo, et si tu poses la question alors à ce moment-là, pourquoi Shlomo Ameler a été roi? C'était le fils de David qui lui-même était roi. Alors, on répond, mais n'aimant machloktos el Adonia. Parce que Adonia n'était pas d'accord et a provoqué là-bas une dispute. Alors Shlomo a été roi pour prouver que c'est lui et seulement lui le roi. Vet Yoash, et pourquoi Yoash était roi? Mais venait Atalia, à cause de la dispute avec Atalia. Vet Yochaz, et pourquoi Yochaz a été roi? Mipnei Yoyakim, à cause de la dispute avec Yoyakim. Pas à cause de la dispute, Shaya Gadol Minoshtenashanim. Parce que Yoyakim était plus grand que Yoachaz de 2 ans. Alors, apparemment, c'est Yoyakim qui aurait dû être roi, mais c'est pour cela que Yoachaz a été roi. Voto Hashemen, et cette même huile donc, dont on a roi tous ces gens-là, Kayam l'a-t-il lavo, il restera pour les temps futurs. Chez Nehemar, comme il est dit, Shemen Mishrat Kodesh Yeliz Zeli le Dorotechem. Une huile d'onction sainte, elle sera pour moi, pour toutes vos générations. Et Zé, le mot Zé, Begematria, a une valeur numérique, Shnemassar, de 12. Et donc Shnemassar Lugin, ce sont les 12 loups. Donc nous voyons qu'elle est restée entièrement, même pour les générations futures. Donc c'est lui-même un grand S, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire depuis le début, il y a eu un S, et jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de son utilisation, il y a eu un S, c'est-à-dire que toujours restait cette même quantité de 12 loups. Amarmar, Maradi. Vafulu Kohen Gadol ben Kohen Gadol Taron Meshira. Même un Kohen Gadol, un grand prêtre, fils de grand prêtre, a besoin d'être roi. Minalan, d'où le savons-nous, dirtif, car il écrit Va Kohen Amashiach Tartav Mibanav. Et le Kohen qui a été roi à sa place de ses enfants. Agmar demande Nimakra Va Kohen Mitartav Mibanav. Le prêtre qui a pris sa place de ses enfants. Maya Amashiach, pourquoi avons-nous besoin de dire que le prêtre qui a pris sa place de ses enfants et donc qui est devenu grand prêtre, est loin. Kamashmalan, cela vient nous apprendre, des Mibanav des Kohen Gadol, que c'est un des enfants du grand prêtre qui l'a précédé. Il avait Mashiach, s'il a été loin avec Kohen Gadol, alors lui, il sera considéré grand prêtre. Veilo, lo, et s'il n'a pas été loin, bien qu'il est fils de grand prêtre, lo avec Kohen Gadol, alors il n'est pas considéré comme étant un grand prêtre. Amarma, Mahadi. Ve'en Moshrin Meler ben Meler. Par contre, on n'a pas besoin d'oindre un roi fils de roi. C'est-à-dire que lorsqu'un roi veut remplacer son père dans la royauté, il n'a pas besoin d'être roi. Minalan, d'où l'apprenons-nous? Amar Rava Chabaria, Kovrava Chabaria, comme nous dit, Dirtif, car il est dit, à propos du roi, les Ma'an Yarichamim Amnachlato, afin que ses jours s'allongent sur sa royauté, ou Banavachara, lui et ses enfants après lui. Donc de là, nous apprenons, Yerusha Ilachem, la royauté, c'est un héritage pour vous. Et donc, de même qu'un héritage, c'est quelque chose qu'on fait hériter, de même la royauté, on peut la faire hériter. Donc, si quelqu'un est roi, il peut faire hériter ça à ses enfants, et cette royauté, et il n'a pas besoin d'oindre ses enfants. Ma demande, ou minalan de rika machloket bae meshira. Et d'où apprenons que lorsqu'il y a une dispute et une discussion, et que tout le monde n'est pas d'accord, alors on a besoin de oui oindre le roi. Velav kol de bae malka amorid malchut alibne. Et nous ne disons pas que chaque roi qui veut faire hériter la royauté à son fils peut le faire. Azamarav papa, papa nous dit, Amarka, parce que le verset nous dit, ou banav bekerav Israël. Lui et ses enfants parmi le peuple d'Israël. Bismach et shalom be Israël. Du moment, s'il y a la paix parmi les béné Israël, karenabe ou banav, alors à ce moment-là, je dis que peut s'appliquer aussi le début du verset, lui et ses enfants. Vafil ou belo meshira, même sans oindre ses enfants. Mais si la paix ne règne pas parmi les béné Israël, c'est-à-dire que les béné Israël ne sont pas tous unis, il y a une discussion, c'est qui qu'on doit mettre roi maintenant, qu'on doit nommer roi, alors dans un cas pareil, là il a oui besoin d'être roi. Tana, nous avons appris dans une breta, Af Yehu ben Nimshi lo Nimshach, même Yehu fils de Nimshi n'a pas été roi, Ela mipnei machlokto shel Yoram, seulement à cause de la dispute qu'il y avait avec Yoram. Ragma demande, pourquoi ne disons pas nous que tout simplement Yehu c'était un premier roi, c'est-à-dire il n'était pas fils de roi, et puisqu'il n'était pas fils de roi, alors c'est pour cela qu'il avait besoin d'être roi. Pourquoi avons-nous besoin de dire que c'est à cause de la dispute qu'il avait avec Yoram? Comment nous dire, il manque des mots et c'est comme ça qu'il faut dire. Malché ben David Meshuchim, les rois de la dynastie de David à Meler, eux ils sont oui ou malché Israël, mais les rois qui ont régné sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire que pas les rois qui régnaient sur les tribus de Yehuda et Binyamin, mais les rois qui régnaient sur le reste du peuple d'Israël, en Moshin, eux ne sont pas loin. Minalan, d'où la prenons-nous? Amarava Amarka, parce que Rava il a dit un verset, Kum Mashreu, lève-toi et oin-le, qu'Izé, car celui-là a besoin d'être un. Et de là, nous apprenons Zé Taon Meshicha, celui-là, et là-bas, nous parlons d'un roi de la dynastie de David. Taon Meshicha a besoin d'être un. Venacher Taon Meshicha. Et un roi d'une autre dynastie n'a pas besoin d'être un. Donc les rois qui ont régné sur le peuple d'Israël et pas sur le peuple de Juda et Binyamin, qui ne venaient pas de la dynastie de David, ne sont pas un. Et là-dessus, nous disons que même Yehou n'a pas été oint seulement à cause de la dispute qu'il y avait avec Yoram. Donc en fait, Yehou n'aurait pas dû être oint du tout, même s'il était premier, c'est-à-dire qu'il n'était pas fils de roi, même s'il était le premier d'une dynastie et qu'il n'était pas fils de roi, il n'aurait pas eu besoin d'être oint, étant donné qu'il est, malgré Israël, un roi qui règne sur les Béné Israël, c'est-à-dire sur le reste des Béné Israël, pas sur les tribus de Yehuda et Binyamin. Mais on dit que malgré cela, il a quand même été oint. Pourquoi ? Parce que, à cause de la discussion qu'il y avait à Rav. Alors Amar dit, Afiou ben Nimshi, lo nimshach el machlokto shel Yoram. Et même Yehou, fils de Nimshi, n'a pas été oint seulement à cause de la dispute qu'il y avait avec Yoram. Alors Amar demande, Umshum machlokto shel Yoram ben Achav, nimol beshemen. Alors quoi ? Tu me dis que normalement cette personne, ce roi, n'avait pas besoin d'être oint. Maintenant, à cause de la discussion de Yoram ben Achav, à cause de la dispute avec Yoram ben Achav, alors on va profaner l'huile sainte. Arrête cette huile, ça, normalement, on n'aurait pas dû loindre avec. Alors, pourquoi l'avons-nous quand même moins? À cause d'une dispute? Putain, pour quelle raison faisons-nous une chose pareille? Alors, on nous répond que des amas, Rav Papa, comme a dit Rav Papa plus loin, forcément, d'Achia, qu'il a été loin avec de l'huile de plaque minier pure. C'est-à-dire, c'était une huile qui sentait très bon. Alors, de même, ce que Rav Papa a répondu d'une façon pareille plus loin, alors, Hanam, ici aussi, Yehou n'a pas été loin avec l'huile d'onction, mais avec quelque chose qui ressemblait avec de l'huile d'onction, c'est-à-dire, forcément, d'Achia, avec de l'huile de plaque minier pure. L'Agmara nous dit maintenant, il nous rapporte ce que nous avons étudié plus haut. Plutôt, Vet Yehoachaz, Mimne Yehoyakim. Et Yehoachaz a été loin à cause de Yehoyakim, Shaya Gadol Minush Teshanim. Car Yehoyakim était plus grand que Yehoachaz de 2 ans. Donc c'est pour ça que Yehoachaz a été loin. L'Agmara demande au Mikashish Mine, est-ce que Yehoyakim était plus vieux que Yehoachaz de 2 ans? Vaktim, il écrit, Ubne Yehoshayahu, et les enfants de Yeshayahu. Abechor, l'aîné, Yohanan. Acheni, le deuxième, Yehoyakim. Achishi, le troisième, Titkeahu. Arevi, Shalom. Le quatrième, c'est Shalom. Ve'amar Rabbi Yohanan, et Rabbi Yohanan a dit, Hu Shalom, ou Titkeahu, ou Yohanan, ou Yehoachaz. Le même, c'est Shalom. Le même, c'est Titkeahu. Et le même, c'est Yohanan. Le même, c'est Yehoachaz. C'est-à-dire que c'est la même personne. Donc nous voyons d'ici que Yohanan, qui était en fait Yehoachaz, était l'aîné. Et Yehoyakim était le deuxième. Alors pourquoi disons-nous que Yehoyakim était plus vieux que Yohanan? Agma nous dit, il est Olam Yehoyakim Kashish. Non, il faut toujours dire que Yehoyakim était plus vieux que Yehoachaz. Umay Bechor, alors pourquoi dans le verset il a été cité en tant qu'aîné? Bechor le Malchut, car à propos de Dieu la royauté, il a été considéré comme étant l'aîné, puisque c'est lui qui est devenu roi. Agma demande, Umay Malché, Zoutar Mikame Kashish, Kshishé. Est-ce que nous avons le droit de faire une chose pareille, de faire régner le plus jeune avant de faire régner le plus vieux des enfants? Vaktim, il est écrit, Vet amamlacha natan le Yehoram, et la royauté il a donné à Yehoram, kiwa bechor, car lui il est aîné. Donc nous voyons ici explicitement que la royauté on le donne au fils aîné. Alors pourquoi la royauté dans le cas de Yehoachaz et Yehoyakim a été donnée au plus petit des fils? Alors on va répondre non. Yehoram memale makom avotavava. Yehoram, lui, il marchait dans le chemin de ses parents. C'est-à-dire que c'était injuste comme ses parents. Donc c'est pour ça qu'il a eu le droit d'avoir la royauté. Yehoyakim, mais Yehoyakim, là memale makom avotavava. Lui, il ne marchait pas dans le chemin de ses parents. Donc il ne se conduisait pas très bien. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas pu hériter de la royauté. Amarma, maradi. Hu shalom, ou titkeahu, ou yohanan, ou yehoachaz. La même personne, c'est Shalom, Titkeahu, Yohanan et Yehoachaz. La Gemara demande, Ve'achat Krak Kachashiv. Mais c'est, dans le même verset, nous avons cité ces 4 personnes différemment, dirtif, comme il est dit, Hashlishi, Arevi, le troisième et le quatrième. C'est-à-dire, dans le verset que nous avons cité plus haut, nous avons dit que le premier, c'est Yohanan, le troisième, c'est Titkeahu, et le quatrième, c'est Shalom. Alors, nous voyons que ce sont des personnes différentes. Comment pouvons-nous dire que c'est la même personne? Non, c'est quoi le troisième ici que nous avons cité? C'est pas que c'était le troisième des enfants. C'est pas que c'était le Shlishi les Banil, c'est que c'était le troisième des enfants. Ou Maïrevi, mais par contre, c'est quoi le quatrième que nous avons cité? C'était pas le quatrième des enfants, c'était Revi les Malchut. C'était le quatrième à avoir régné de tous les enfants. De Meikara Malach Yoachaz. Au début, c'est Yoachaz qui a régné. Ulbasov, après Yoachaz, c'est Yoachim son frère. Ulbasov, après, c'est Yechonia, le frère de Yoachim et le frère de Yoachaz. Ulbasov, et là, à la fin, c'est Tzidkiaou. C'était Tzidkiaou. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a dit dans le verset va arriver Tzidkiaou, c'est pas qu'en fait c'était le quatrième des enfants, mais c'était le quatrième à régner. Tanou Rabanan, nous avons appris. Ou Shalom ou Tzidkiaou. La même personne, Shalom, c'est la même personne, c'est Tzidkiaou. Pourquoi son nom a été appelé alors Shalom, si c'est la même personne, si c'est Tzidkiaou? Shaya Meshulam Bema'asav, car il était parfait dans ses actions, c'est-à-dire c'était injuste. Ikadamri, il y en a qui disent Shalom, pourquoi il a été appelé Shalom? Shishalma Malchut Ben David Beyamav, car parmi ces jours, la royauté et la dynastie de Ben David a été finie, c'est-à-dire que tant qu'il a vécu, le temple a été détruit et Nebuchadnezzar a pris Tzidkiaou et l'a amené en exil. Donc, et à ce moment-là, la dynastie de David s'est finie. Donc c'est-à-dire que lui, il a fini la dynastie de David. Ou Mashmo, c'est quoi son vrai nom? Matania Ashmo, c'est Matania son nom chez Nehemar, comme il dit. Vayamler Melech Babel et Matania Dodo, Tartav. Et le roi de Babel a fait régner Matania, son oncle, à sa place. Vayesev et Chemo Tzidkiaou. Il a changé son nom en Tzidkiaou. C'est-à-dire de Matania, il a changé son nom, il lui a donné un nouveau nom, Tzidkiaou. Amarle lui a dit, pourquoi il lui a dit une chose, pourquoi il lui a fait changer son nom? Il lui a dit, c'est-à-dire le roi de Babel lui a dit, Dieu te fera justice si tu te rebelles contre moi. C'est-à-dire que le roi de Babel a fait régner Tzidkiaou à la place du roi qui était précédent. Et il lui a dit, par contre, je te fais régner, mais à une seule condition, c'est que tu ne te rebelles pas contre moi. Et si tu te rebelles contre moi, Dieu te fera justice. Et après, il a écrit, Gam Bamelach Nebuchadnezzar Marad, et même contre le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babel, il s'est rebellé, Asher Ishbio Belokim, dont il a fait jurer par Dieu. C'est-à-dire que le roi de Babel a fait jurer Tzidkiaou par Dieu de ne pas se rebeller contre lui. Et en fait, Tzidkiaou a transgressé son serment et s'est oui rebellé contre le roi de Babel. Et ce qui s'est passé après, c'est que le roi de Babel l'a pris et l'a envoyé en exil. Nous avons fini Baruch Hashem, le shiur de Daf Yud Aleph.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.